Radio Jenny, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, couldn't say your CV. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. That boy, your caller, I do it as you like. You much ado about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. We your little tempest, get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire.
Bonsoir.
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 Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure de la reprise des Canu Info.
Alors si jamais des gens de la technique de la radio nous écoutent, autant vous le dire tout de suite, une petite descente au studio, ça serait pas mal. L'ampoule des micros marche pas, j'ai sur le casque j'ai sur les oreilles un casque à une seule oreille.
L'autre très original.
Traîne, sur la table d'à côté.
On commence la rentrée sur le bureau des
On aurait pu aussi checker tout ça 5 minutes avant.
C'est vrai qu'on aurait pu, non, pour dire que les gens de la technique, vous êtes certainement pas plus nazes que nous dans l'histoire. Ça, aucun doute là-dessus. Mais vous entendez peut-être qu'on a des masques.
Et des films plastiques, mais c'est parce que c'est la reprise et c'est la reprise du Covid.
Alors, donc si ça. On n'entend rien, c'est normal.
Et nous, après, on réécoutera si jamais c'est vraiment pourri avec des masques. La semaine prochaine, on se demandera quoi faire.
On mettra du gel hydroalcoolique.
C'est ça.
Dans nos bouches.
Ouais. En tout cas, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler ?
Aujourd'hui, on va commencer par un petit rattrapage pour les gens qui étaient vraiment aux abonnés absents cet été. On va parler de néonicotinoïdes et d'insecticides dans les cultures.
Ensuite, on parlera des manifs qu'il y a en Biélorussie en ce moment. Un titre fantastique, France ou États-Unis, Amazon à la pointe des avancées sociales.
Et puis ça sera l'heure de notre fameuse rubrique qu'on va reprendre direct, cache-pistache, la rubrique Il faut que ça se sache, qui pourrait aussi s'intituler quelque chose comme Bienvenue en France, avec aujourd'hui des petites nouvelles de la Méditerranée, un petit résumé des épisodes de cet été, parce qu'il s'est passé des trucs. Un petit point sur Mayotte, parce qu'il semblerait qu'à Mayotte, ça soit les sans-papiers qui soient responsables des violences, on va faire un petit retour à Calais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Calais.
Et voilà. Et à un moment, on se fera une espèce de pause musicale.
Ouais, Shadia Mansour.
Et ouais. Et on va commencer par les brèves de Lafarge alors.
Allez, on y va. Donc, des camions du groupe Lafarge ont été filmés déversant des eaux usées directement dans la Seine, en plein Paris, de façon à éviter de financer leur traitement, comme l'impose la loi. La vidéo a donné lieu à un signalement de l'Office français de biodiversité, c'était le 27 août dernier. Mais c'est une pratique qui dure visiblement depuis des années, puisqu'il y a une couche de ciment assez conséquente qui est séchée, visible depuis les quais. Il y a quelques mois, des camions du même groupe avaient d'ailleurs déjà été filmés déversant des eaux sales ailleurs dans la Seine. Le gouvernement évidemment joue les indignés et annonce qu'il portera plainte. Lafarge ne doit pas beaucoup trembler puisque Vinci, donc son concurrent direct, avait été condamné en mars dernier pour des faits similaires. 90 000 euros d'amende, dont 40 000 avec sursis, autant dire pas grand-chose vu le capital de ces entreprises-là. Alors Lafarge, sa réaction, c'est qu'elle se dit victime d'une malveillance. Une plaque aurait été dévissée cet été dans le dernier bassin de décantation des eaux de lavage des camions. Il compte donc lui aussi déposer plainte.
Attends, ça veut dire quoi une plaque qui a été...
Une plaque d'égout, quoi. Enfin, une plaque qui permet de déverser des choses.
En fait, sur la vidéo, on voit que ça fait... en fait, les camions, ils déversent sur un espèce de bac, un truc qui est fait pour. Et en fait, t'as un mur d'enceinte. Et du coup, ce mur d'enceinte, il est collé au quai. Et en fait, tu vois une espèce de plaque en fer qui est complètement défoncée et où ça fuit. Et effectivement, quand on voit la gueule de la plaque, on se dit pas ah tiens, il y a des salauds qui ont retourné la plaque volontairement. On se dit plutôt que Lafarge, on a à peu près rien à foutre de la gueule de l'entretien de ces trucs, parce qu'il y a quand même un trou dans le mur. Enfin, si vous voyez, il y a un trou dans le mur et il y avait une espèce de plaque peut-être à un moment qui était mise, mais bon voilà. Enfin voilà, ça fait pas non plus un truc qui est dans un extrêmement bon état quoi.
Radio Canu. Canu info. Du mercredi.
Alors, on va continuer dans l'écologie, mais l'info que je vais, dont on va parler maintenant, disons qu'elle est principalement destinée à celles et ceux qui étaient occupés à bronzer, et tellement qu'ils ou elles n'ont pas ouvert un journal de l'été, ou alors qu'ils étaient partis prendre des vacances dans une guérilla tropicale sans avoir d'infos de par ici. Les autres, bah, après, il y a des chances que vous sachiez déjà ce que je vais vous raconter, du coup c'est le moment d'aller faire pipi ou quelque chose comme ça. Vous vous rapprocherez de la radio dans 5 minutes, ça sera très bien comme ça.
Enfin, on dit, les gens veulent avoir ta version des faits quand même.
Mais évidemment. Non, et puis j'ai été dans les quelques derniers jours là, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai bu des cafés et qui n'étaient pas au courant de cette histoire. Je me suis dit que j'allais en parler quand même. Bref, on va parler du grand retour des insecticides néonicotinoïdes. Et on va commencer par une sorte de retour en arrière, parce que les gens qui sont des fidèles du Canu Info du mercredi depuis toujours n'ont pas manqué d'entendre parler, il y a quelques années, de ces manifestations d'apiculteurs qu'on avait relayées plusieurs fois. Alors, les abeilles, bon, comme cette fois-ci, quand même, j'espère qu'à peu près tout le monde est au courant de cette histoire. Les abeilles, ben, y en a de moins en moins. Les abeilles, elles disparaissent plus ou moins vite selon les coins. Mais enfin, dans tout l'Hexagone, et en réalité dans le monde entier, c'est un problème, la chute de population d'abeilles. Il y a plein de causes à ça, et une des causes, c'est les produits insecticides utilisés par l'agriculture, en particulier l'agriculture industrielle. Et en particulier ce truc qui s'appelle les néonicotinoïdes. Leur effet sur les abeilles, ça consiste surtout à leur faire perdre le sens de l'orientation. L'abeille ne peut pas retrouver sa ruche, les abeilles ne peuvent pas vivre longtemps si elles sont loin de leur bande. Du coup, elles se perdent et elles meurent. Or, les abeilles, ben, d'un côté ça fait du miel, ce qui est quand même déjà toujours pas mal, mais aussi ça pollinise les plantes, et ça c'est quand même, comme qui dirait, méga important. C'est-à-dire que sans abeilles, il y a plein de plantes, que ce soit des plantes cultivées ou des plantes sauvages, qui juste ne peuvent pas se reproduire. Alors bien sûr, il n'y a pas que les abeilles qui font ça, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup les abeilles. Il y a d'autres insectes qui font ça aussi.
Mais oui, ils ne font pas de miel.
Les autres insectes ne font pas de miel. Et puis, non, et puis en vrai, c'est quand même vraiment les abeilles qui font ça énormément, quoi. Du coup, le fait qu'il y ait moins d'abeilles, potentiellement moins, potentiellement un jour plus d'abeilles, c'est quand même vraiment, vraiment assez grave. Ce qui fait que les mobilisations des apiculteurs et apicultrices avaient, à l'époque, fini par payer. Et puis, c'est que parallèlement aux mobilisations des apiculteurs et apicultrices, quand ce parti a été formé, le parti La République En Marche, c'était un parti qui était quand même assez hétéroclite, assez pas sympathique, c'est sûr, mais dans lequel il y avait des gens dont on se demande un peu ce qu'ils étaient venus y foutre, et entre autres, quelques écolos, sans doute, en tout cas, ça avait l'air, un peu vu de loin, réellement convaincus. Ils sont sans doute un peu myope, aveugle ou quelque chose comme ça aussi, mais bon. Et parmi ces personnalités, ces députés, il y avait une députée qui n'hésitait pas à ouvrir sa gueule sur des questions écolo, une certaine Barbara Pompili. Et bien, Barbara Pompili avait été porteuse d'une loi qui visait à interdire ces néonicotinoïdes. Et figurez-vous que cette loi était passée, elle a été votée en 2016 et mise en application en 2018. Mais voilà. Là, on est 2 ans plus tard, et 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il nous tombe dessus un parasite de la betterave. Alors vous allez me dire, parasite de la betterave, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais non, en fait, même pas complètement, parce qu'on ne parle pas des betteraves rouges infectes que des gens parfois veulent nous servir, en croyant nous faire plaisir, ou juste par malveillance.
On parle des betteraves sucrières infectes.
On parle bien des betteraves sucrières.
Vous avez compris que dans ce studio, il y a un lobby anti-betterave.
Ouais, c'est un peu vrai. Mais en tout cas, ouais, là, c'est plutôt les betteraves sucrières. Et alors là, attention, grand branle-bas de combat, la production française pourrait baisser jusqu'à... Ah pardon, la production française pourrait baisser jusqu'à des 20%, peut-être même 30% selon les estimations de la FNSEA, qui quand même passe son temps à dire qu'elle est ruinée tous les 15 jours.
Mais pense si tu devais réduire ton taux de sucre de 20 à 30%.
Et ouais, c'est ça.
Et, dramatique.
Et par ailleurs, du coup, que ce soit la FNSEA ou que ce soit le gouvernement, nous explique que du coup, si ça arrive, il n'y aura plus de filière sucrière française. Et là, attention, le sucre ne serait plus français. Et, putain, pff, la merde. Comme si on passait pas notre temps à manger des trucs qui viennent de plus loin. Mais voilà, donc catastrophe. Donc ce parasite de la betterave, ça donne une maladie qui s'appelle la jaunisse de la betterave, et c'est causé par une sorte de petite mouche, un machin dans ce genre-là. Et là, bon, bim, on n'a pas de solution contre le parasite de la betterave. En fait, la FNSEA trouve qu'on n'a aucune solution. Et du coup, quelques députés, bon, de droite, hein, volent au secours des betteraviers, se fendent dans l'été d'une ou deux tribunes en disant « il faut, la République En Marche nous a promis du pragmatisme, bah là c'est le moment de faire preuve de pragmatisme ». On nous reparle de agribashing, on nous reparle de mépris pour les territoires, toutes ces conneries. Et puis, tel ministre, tel député se souvient de la conversation de dimanche dernier avec son cousin, son beau-frère, qui est justement producteur d'insecticides. Et bim, au milieu de l'été, pendant que vous et d'autres, hein, beaucoup d'autres, étaient en vacances loin des infos, le ministre de l'Agriculture et la toute nouvelle ministre de l'Écologie, tiens, c'est justement Barbara Pompili, nous explique qu'il est absolument impératif de se fendre d'une dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes pour 2021 et 2022. Alors, pour 2 ans, ça serait parce que la betterave, c'est une plante qui a besoin de 2 ans pour se développer complètement. La même Barbara Pompili, quand même, je veux dire, si vous avez écouté les infos cet été, vous l'avez entendu 1000 fois, mais si jamais vous n'étiez pas là, en 2016, pendant l'examen de la loi, nous déclarait, 2 points, ouvrez les guillemets, si on commence à dire on interdit là où il y a des alternatives, mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps, on sait très bien que c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certains néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits. Ça, c'est ce qu'elle disait en 2016. Cet été, elle dit non, mais là en fait, quand même, on est vraiment obligé. Bon, c'est la politique, on va pas se formaliser pour un volte-face, c'est leur boulot à ces gens-là. Par contre, on peut faire observer que ça fait 4 ans qu'on parle de cette interdiction, donc elle n'a pas été mise en application tout de suite. D'abord, il y a eu des mobilisations, puis il y a eu un travail parlementaire, puis l'interdiction a été votée, puis il y a encore eu 2 ans avant qu'elle soit mise en application. Et comme le déclare un sénateur de gauche à Mediapart, depuis le vote de la loi, le lobby des betteraviers manœuvre pour obtenir des dérogations et n'a aucunement cherché à mettre en place des alternatives. Toujours dans Mediapart, on a un bonhomme qui est député de la France Insoumise et qui nous dit « L'argument qu'il faut du temps pour trouver des alternatives, je l'entends à longueur de journée au sein de la mission parlementaire pour le suivi de l'interdiction du glyphosate, c'est une raison pour ne rien faire. Or, les alternatives existent, elles sont notamment défendues par la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Il faut juste sortir de la monoculture industrielle. » Alors, c'est des histoires de diversifier les parcelles, de faire tourner les cultures, de décaler les semis dans le temps. C'est vraiment, vraiment pas la culture de la FNSEA et de la grosse industrie agricole française. Il existe, nous dit toujours ce bonhomme de la France Insoumise, un panier de solutions pour rompre le cycle des ravageurs. Certes, c'est pas une solution simpliste. C'est pas on remplace un produit par un autre. Mais c'est des perspectives qui, outre leur intérêt écologique, permettraient aussi de créer des emplois. Bref, il faudrait repenser un petit peu l'agriculture. Et ça, là, il y a quand même quelques années depuis ces histoires d'interdiction pour faire ça. Mais non, en fait, c'était pas du tout ça. La FNSEA nous le répète, à côté de ça, il existe encore des pays où ces néonicotinoïdes ne sont pas interdits. Alors du coup, bien sûr, ces pays, eux, ils peuvent faire de la betterave. Et ils peuvent en faire plus sur autant de sol, du coup avoir des meilleurs rendements. Du coup, c'est dégueulasse, c'est de la concurrence déloyale. En résumé, pour la FNSEA, mais finalement pour tous les ministres de l'agriculture, et ça, que ça soit ceux de Macron, mais que ça soit les socialistes d'avant, que ce soit la droite d'avant, c'est toujours pareil chez les ministres de l'agriculture. La France doit toujours finalement s'aligner sur les pires pays en matière d'environnement, parce que si on fait pas ça, et ben c'est toujours comme planter un coup de poignard dans le dos des agriculteurs. Enfin, qu'on s'entende bien, quand on parle ici d'agriculteur, on parle bien du pire modèle d'agriculture, on parle de celui où il y a les minus qui se suicident pendant que ceux qui profitent de leur boulot se font des rails de coke sur les places financières. Pas du maraîcher qui fournit votre AMAP et qui, lui, saura très bien se passer de néonicotinoïdes. D'ailleurs, il en utilise déjà pas. Et il se démerde tout à fait pour vous faire à manger avec. Enfin, pour vous faire à manger sans. Alors voilà, quand le gouvernement a dit dérogation pour les betteraves, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les producteurs de maïs, ils ont fait « Oh, et nous aussi, on a besoin de dérogation quand même, le maïs, vous rendez compte ?» Bon, et le gouvernement a quand même eu besoin de 4 semaines pour répondre que, et ils ont répondu aujourd'hui, hein, là dans la journée, que non, allez, le maïs quand même, on va pas le faire pour le moment. Mais vous en faites pas, la FNSEA, ses représentants et ses adhérents ne renonceront jamais.
Canu Info. info.
Et on va faire un tour du côté de la Biélorussie.
Et alors pour ce sujet, je me suis largement inspirée d'un article de Lutte Ouvrière que vous pourrez retrouver sur leur site internet. Nous ne sommes ni des moutons, ni des veaux, ni des petits. Nous sommes les travailleurs de MTZ et nous ne sommes pas une vingtaine, mais 16 000. C'est en ces termes que, sur leur banderole, les grévistes de la plus grande usine d'engins agricoles, militaires et de chantiers de la Biélorussie ont répliqué au président Loukachenko, venu se mettre dans la poche ses travailleurs devant la révolte des Biélorusses. Loukachenko, qui est au pouvoir donc depuis 26 ans, a cristallisé les colères avec un scrutin truqué le 9 août dernier, si vous étiez au soleil et que vous avez loupé ça, où le président, donc Alexandre Loukachenko, a été reconduit à 80% des voix, un score dénoncé par l'opposition et par la communauté internationale jugement des élections. On ne dit pas jugement des élections. Contrôle des élections.
Ouais, ça, voilà. Les observateurs internationaux.
Voilà. Une première manifestation donc, a suivi ces élections. Ça a été la démonstration de force du régime et des forces anti-émeutes. Il y a eu 3 morts, des dizaines de blessés, plus de 7000 arrestations. Des actes de torture aussi sur les personnes en détention. De quoi attiser une colère déjà bien présente. Depuis, les médias étrangers se voient refuser les accréditations et chaque dimanche regroupent des dizaines de milliers de manifestants. Les 16 et 23 août, près de 100 000 personnes sont descendues dans les rues de Minsk, la capitale, donc, malgré les pressions et les menaces des autorités, ce qui en fait les deux plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Dimanche dernier, rebelote, manifestation le 30 août, donc, ironiquement, c'était aussi le jour anniversaire d'Alexandre Loukachenko, de nouveau au moins 100 000 personnes dans la rue. La manif était baptisée « Marche pour la paix et l'indépendance » en réaction aux déclarations de Poutine de la semaine dernière qui proposait d'agir en envoyant ses forces spéciales si la situation devenait hors de contrôle. Une réponse aussi aux provocations de Loukachenko qui a fait diffuser dans la semaine une photo le représentant avec un gilet pare-balles, un fusil automatique à la main dans une posture menaçante et qui a fait déployer blindés et canons dans la capitale. La veille, le samedi, c'était surtout des femmes qui sont descendues dans la rue comme chaque samedi depuis la campagne présidentielle. La foule était si dense que les cordons de policiers sont contournés et forcés de reculer, nous raconte le journal Le Monde. Sauf quand ils tentent d'arrêter des manifestants, il n'y a pas d'affrontement. Mardi 1er septembre, des milliers d'étudiants boycottaient la rentrée scolaire et plusieurs centaines d'étudiants manifestaient à nouveau. Ils étaient quand même moins nombreux que les dimanches. On sent que la répression a un peu tapé dedans quand même. Plusieurs secteurs, l'automobile, la construction, la chimie et les mines, se sont déclarés en grève dès le 9 août. La grève générale a été asphyxiée par une répression brutale, orchestrée par le KGB et les cadres fidèles au régime. Au moins 2 meneurs de grève ont dû fuir en Lituanie et en Pologne. D'autres ont été arrêtés et la majorité des ouvriers ont repris le travail de peur de le perdre. En Biélorussie, ça fait une dizaine d'années que le paternalisme envers les travailleurs a volé en éclats. Depuis une dizaine d'années, donc, il y a une généralisation des contrats précaires, les salaires sont gelés, l'instauration d'amendes sur le salaire, l'interdiction de créer un syndicat sans l'accord de l'employeur, autant de décisions prises, le plus souvent par décret présidentiel. Plus récemment, la gestion du Covid-19 par Loukachenko, ça a été une catastrophe. Ce qui augurait un peu de ce qui s'est passé. L'opposition libérale, elle, prépare la relève du pouvoir avec un conseil de coordination. Parmi ses membres, un diplomate et ex-ministre de Loukachenko, la prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, des juristes, une coordinatrice de la campagne de Svetlana Tikhanovskaya, la challenger de Loukachenko à la présidentielle, et quand même, pour faire bonne figure, un représentant du comité de grève de MTZ, poursuivi en justice par le pouvoir. Alors, ça démarre mal, puisque l'une des membres de cette opposition, Maria Kolesnikova, la seule encore sur le territoire biélorusse, se ferait déjà un autre chemin en lançant un nouveau parti politique, le 31 août, baptisé Ensemble.
Et on va se faire une petite pause musicale. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعد تقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك 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 بقلن يس
عيشوا وشغلي مش الهمة حاصل فيه هالدونات بنتي بس لبسها القري كفيهن طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف كونوا ببشر
قبل ما بتلبسوا كوفيه
جينا نذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هاي حطتنا
من هيك لبسنا الكوفيه
لانها وطنيه
الكوفيه كوفيه عربي من هيك لبسنا الكوفيه
هويتنا الاساسيه
الكوفيه كوفيه عربي يلا علم كوفيه
علولي هالكوفيه
الكوفيه كوفيه عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفيه عربي بتضل عربي
ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثره الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله
خليني نشوف
الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزب زلزاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرب بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين أنا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عأصولي فلسطينية
من هيك لبسنا الكوفية
لأنها وطنية
الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية
هويتنا الأساسية
الكوفية كوفية عربي يلا علم كوفية
علولي هالكوفية
الكوفية كوفية عربي
علوه هلا بلاد الشام
كوفية عربية بتضل عربية
statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable neath the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini. Does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah. But I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru. Yeah, the kufir is Arab. Yeah, it's M1 in solidarity. Feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza, I keep it RBG up.
Et c'était Shadia Mansour qui chantait une chanson dont je ne vais pas essayer de vous prononcer le titre. Et à la fin de la chanson, il y a un bonhomme qui chante en anglais et c'est un gars de Dead Prez.
Et on va parler d'Amazon.
Et oui, on va parler d'Amazon, dites donc. Et ben, alors quoi, sur ce site qui s'appelle... Putain, qui s'appelle comment ? Merde, qui s'appelle Rapport de Force, je crois, qui est bien. J'ai trouvé cet article qui s'appelle « Face au syndicat, Amazon échoue à faire installer des caméras intelligentes sur ses sites français ». Et qui nous raconte ça, que Amazon avait décidé d'installer le 26 août, il y avait un jour pour tous les sites d'Amazon en France, des caméras intelligentes qui, en fait, pourquoi ils font ça ? Mais c'est à cause du Covid. C'est parce que les salariés, vous les connaissez, ils sont gentils, mais des fois ils font des bêtises et des fois ils se rapprochent les uns des autres. Alors les caméras allaient filmer les salariés tout le temps. Mais se mettre à faire bip bip si les salariés se rapprochaient à moins de 2 mètres les uns des autres. À moins de 2 mètres les uns des autres. C'est vrai, j'ai perdu l'habitude de parler dans le micro cet été. Et puis, tout ça, c'était une mesure parmi plusieurs mesures, hein, parce que Amazon a aussi embauché des ambassadeurs de l'hygiène, qu'on appelle aussi Safety Angels. et qui rappellent à l'ordre les collègues qui se rapprochent trop, qui oublient de se laver les mains, qui portent mal leur masque, qui les mettent un peu trop sur le menton ou je ne sais quoi. Et du coup, caméra intelligente, caméra qui regarde à quelle distance vous êtes les uns des autres. Et ils ont informé les délégués syndicaux au cours d'un CSE. Qu'est-ce que ça veut dire CSE? Un comité de la sécurité de je sais pas quoi. Un machin des entreprises, vous voyez. Et sauf que les représentants du personnel ce jour-là ont trouvé que pour un truc pareil, il fallait pas vraiment qu'ils soient informés, il fallait qu'ils soient consultés, qu'ils donnent leur avis, et puis que leur avis allait être quand même que en fait non, ça allait pas être possible pour un certain nombre de raisons. Sauf que Amazon trouvait eux que en fait c'était pas la peine de faire de consultation ou je sais pas quoi, puisque les caméras n'enregistrent pas les images, ne les stockent pas et ne les transmettent pas au réseau Amazon, donc pas de problème. Mais les députés syndicaux, ils ont fait ah bah là bon quand même si problème. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Amazon a informé le CSE, mais ne l'a pas consulté avant de prendre une décision qui a des conséquences sur la sécurité et les conditions de travail des salariés. Or la loi l'y contraint. Amazon n'a pas non plus évalué les risques liés à la mise en place de ce nouvel outil. Elle doit donc en passer par ces étapes avant de pouvoir prétendre installer une quelconque caméra intelligente. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la CNIL leur a donné raison. La CNIL qui par ailleurs s'est fendue d'une sorte de communiqué un peu général sur les trucs d'après Covid et qui disent le déploiement massif de ces dispositifs, et là on parle de dispositifs vidéo qui aident à lutter contre le Covid-19, le déploiement massif de ces dispositifs de captation de l'image des individus et de détection de certains de leurs attributs ou comportements pourrait conduire chez les personnes concernées à une modification de leur comportement, une modification voulue ou subie. Alors effectivement, c'est l'idée, hein, que globalement que les gens modifient leur comportement. Mais c'est vrai que peut-être ça pourrait aller un peu plus loin, et la CNIL continue. Le développement incontrôlé présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens. Ah ouais, dingue. Là, la CNIL, je vous jure, ils sont hyper bien. Voilà. Ils disent des trucs révolutionnaires. De créer un phénomène d'accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, dingue. Et d'engendrer une surveillance accrue susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique.
Waouh!
Ouais!
Est-ce que ça va être un précédent à la CNIL? Est-ce que ça fait un peu une secousse, un réveil peut-être?
Eh ben non, mais non, la CNIL régulièrement elle dit des trucs où ça fait bah oui, évidemment. Mais et puis des fois, bah c'est ça, ça sert un petit peu, c'est aléatoire quoi. En tout cas, un des trucs, parce que la CNIL, dans les choses auxquelles elle sert réellement à des mots, c'est juste de rappeler ce que c'est la loi. Elle sert pas à grand chose, hein, mais je veux dire, plein d'autres pourraient faire ça aussi bien, mais bon, là-dessus, c'est à la CNIL qu'on le demande. Or, il se passe que les caméras intelligentes, en fait, que ça soit qu'elles enregistrent ou qu'elles enregistrent pas, c'est pareil. Il faut que les individus puissent décider, et sur leur lieu de boulot, en tout cas. Il faut qu'ils puissent être maîtres de dire non. Or là, il y a, avec ces histoires de caméras qui auraient surveillé tout le monde, en fait, il y avait juste aucun moyen pour que chaque salarié puisse dire non, moi je veux pas être filmé. Et du coup, comment ça se passe quand ils se déplacent dans le... Je veux dire que s'il y avait des endroits non filmés, les salariés auraient dû y rester, pas se déplacer. Ça semblait complètement impossible. Et donc c'est pour ça que alors qu'il est le 26 août est passé, Amazon n'a jamais dit non, on le fera pas, mais il n'y a toujours pas de caméra dans les dépôts Amazon. Voilà, ça c'était en France, mais alors Amazon aux États-Unis, figurez-vous qu'ils ont passé une petite annonce comme ça pour recruter des gens, mais après la petite, ils ont voulu la passer un petit peu qui est juste les candidats potentiels qui la lisent, mais ça n'a pas marché. Elle a été rendue un peu plus publique qu'il l'aurait voulu. La petite annonce, c'était qu'ils voulaient recruter du monde pour surveiller les menaces d'organisation syndicale. Alors que disait la fiche de poste? Elle disait, attendez, il faut que je retrouve parce que tant pis, je vais laisser tomber. Mais en tout cas, c'était ça l'idée, c'était que la fiche de poste demandait de suivre de près les financements et activités liées à des campagnes en interne et en externe contre Amazon, et d'être capable d'informer les avocats du groupe sur des sujets sensibles et hautement confidentiels, y compris les menaces d'organisation syndicale au sein de l'entreprise.
Ils recrutent des infiltrés, en fait.
Ben, ouais, des infiltrés, ou si ça se trouve juste des gens qui auraient passé leur temps sur les réseaux sociaux, ou on sait pas exactement ce qu'ils leur auraient demandé de faire. Mais en tout cas, en plus, aux États-Unis, ça fait vraiment penser à revenir à la bonne vieille époque des Pinkerton qui harcelaient les syndicats aux alentours des années 1900. Et en l'occurrence, ça flinguait. Hein. Mais là, ça fait vraiment un peu revenir là-dessus, quoi. Et donc. Un collectif d'organisation anti-Amazon nous explique aussi que les travailleurs, notamment les travailleurs noirs, nous disent depuis des mois qu'Amazon les cible pour s'être exprimés. Cette description de poste est la preuve qu'Amazon a l'intention de continuer. Aux États-Unis, toute personne a le droit de parler et de se réunir avec d'autres pour améliorer ses conditions de vie et de travail. Et nous avons le droit de demander mieux pour nos communautés de la part d'une corporation qui vaut 1000 milliards de dollars. C'est donc ce que nous dit une représentante de ce collectif d'organisation anti-Amazon. Mais alors, que nous répond la direction d'Amazon ? Amazon offre déjà ce que les syndicats demandent pour les employés. Des salaires à la pointe de l'industrie avec au minimum 15 dollars par heure. Des avantages. C'est ça. Mais ils ont plus. Des avantages sociaux conséquents. Des opportunités de carrière. Le tout en travaillant dans un environnement sûr et moderne. En fait, tout le monde est au courant autour de la planète que le meilleur job du monde, c'est d'aller bosser dans les entrepôts Amazon. Alors, si vous n'étiez pas au courant, franchement, allez y faire un tour. Peut-être vous reviendrez après vite nous raconter ce qui s'y passe. Voilà, ça, c'est ce que nous dit la porte-parole d'Amazon, interrogée en mai dernier sur ce sujet. Ces avantages et opportunités font partie intégrante des postes, tout comme la possibilité de s'adresser directement aux responsables de l'entreprise, donc sans passer par les syndicats,
puisque une perte les syndicats, de temps,
mais oui, c'est toujours une perte de temps. Et oui, c'est ça. Mais en fait, ce que j'avais pas dit, c'était pas dans l'article, mais cette histoire de caméra et de salariés qui doivent pas s'approcher à moins de 2 mètres, mine de rien, ça empêche que les salariés se parlent trop entre eux. Et donc, s'ils ont quelque chose à dire, ils vont dire individuellement, toujours individuellement, directement à leur chef, mais surtout pas à plusieurs.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre qu'il soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place.
Alors on en parlait en juillet avant de se quitter. En pleine crise du coronavirus, l'Italie et puis Malte ont déclaré ne plus être en mesure de fournir des ports sûrs. Autrement dit, ces deux pays ont annoncé de fermer leurs ports aux personnes sauvées en mer. Et aujourd'hui, la plupart des navires de sauvetage sont empêchés dans leur opération. Que ce soit pour des arrêts techniques imposés, des irrégularités ou encore pour non-respect des jauges du navire selon les autorités locales. Il aurait donc fallu laisser des gens en mer, trier les personnes à
les
secourir.
Les jauges du navire, on est d'accord, ça veut dire qu'ils trouvent qu'il y a trop de monde à bord.
C'est quoi. Ça, ouais, ouais, ouais. Par contre, sur les petits canaux, ça va.
Ouais.
Donc il aurait donc fallu laisser les gens en mer et trier les personnes à secourir, respecter une réglementation limitant le nombre des personnes à bord du bateau. Résultat, aucun navire de sauvetage n'a été en mesure de respecter ces consignes, donc aucun n'a été sur zone jusqu'à cette fin du mois d'août. Les Nations Unies comptent au moins 29 personnes noyées en Méditerranée centrale lors de ces premières semaines d'août, et plusieurs naufrages ont eu lieu au cours du mois. 45 personnes ont ainsi perdu la vie le 16 août et 30 autres 2 jours plus tard. Alors fin août, enfin, Sea-Watch et une équipe de MSF ont réussi à reprendre la mer. En mer depuis fin août aussi, le Louise Michel, dont on a pu lire partout l'émouvante genèse, la rencontre entre le médiatique et riche street artiste Banksy et la non moins médiatique capitaine de navire Pia Klempf. Et samedi dernier, une annonce de Michel Rubirola, maire de Marseille, qui vient mettre son petit caillou à l'édifice. Elle annonce que Marseille ouvrira son port aux navires de sauvetage de la flotte civile. Une annonce que les militants marseillais prennent avec beaucoup de pincettes en rappelant que les annonces officielles n'ont pas encore été prononcées.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Et on va faire un tour du côté de Mayotte, et cette fois-ci, c'est suite à des déclarations du préfet. Et c'est Jean-François Colombet, donc le préfet de Mayotte, qui a déclaré, je cite, « Il y a un lien direct entre l'arrêt des éloignements et la flambée de violence, car il y a un sentiment d'impunité qui s'est installé. » Alors pour lui, si depuis le 16 mars les violences sont croissantes à Mayotte, ce serait dû à l'impossibilité d'expulser les quelques 13 000 personnes en situation irrégulière du fait de la crise sanitaire. Pardon, elles sont en situation irrégulière du fait de leur migration, mais c'est impossible de les expulser du fait de la crise sanitaire. Bien entendu, la mise à part des affirmations fortes, il n'apporte aucune preuve. C'est-à-dire, il ne dit pas « Ah, on a attrapé tant de pourcentage de personnes qui sont en situation irrégulière et qui ont participé à des violences sur l'île ». Pas du tout, hein. C'est vraiment juste du déclaratif. Alors que si la montée de la violence, s'il y a une montée de la violence à Mayotte, elle pourrait par exemple s'expliquer par l'appauvrissement de la population déjà plutôt mal lotie suite au confinement dans un département français, dans un des départements français les plus pauvres, où pour subvenir à ses besoins, le recours à une économie informelle est assez courant. Suite à ces déclarations, la CIMAD est montée au créneau, bien sûr. La CIMAD est bien sûr bien présent sur l'île pour dénoncer des propos incendiaires de la part du préfet. L'association a, elle, répondu au site Infomigrant, je cite, « Il suffirait, par exemple, d'ouvrir des registres et voir qui est expulsé. Ce sont des mères de famille, des personnes âgées, des malades, des jeunes bacheliers ou encore des personnes qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour car la préfecture est fermée depuis le début de la crise sanitaire et ne reçoit qu'au compte-gouttes. » Ces fameuses 13 000 expulsions qui manquent à l'appel ne sont pas des délinquants, mais des gens comme vous et moi qui rencontrent un problème administratif qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient dans un autre département français. Oui, alors ça vaut le coup de préciser que quand même à Mayotte, ça a beau être un département français, il y a quand même tout un tas d'exceptions qui font qu'en fait si vous êtes une personne migrante et que vous déposez un dossier, si vous êtes en centre de rétention, il y a tout un tas de trucs qui font qu'en fait, eh ben, c'est pas du tout le droit de métropole qui s'applique. Mais par exemple, si on est en centre de rétention, on peut se faire expulser beaucoup plus vite et sans procédure à Mayotte, alors que sur la métropole, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, il y a tout un tas de dérogations qu'il y a à Mayotte, mais qu'il n'y a pas sur le continent. Donc elle précise, car ici la loi sur la nationalité ou le droit au séjour n'est pas la même qu'en métropole, il y a là un vrai scandale. Dominique Segard de la CIMAD précise que 80% de la population de l'île vit sous le seuil de la pauvreté, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, toute l'attention de l'État est mise sur l'immigration. Par exemple, là ça c'est aussi le gars de la CIMAD qui le précise, il n'y a qu'un seul commandement de police pour tout le département, et il s'agit de la police aux frontières. Donc la police aux frontières, en gros, elle chapeaute toutes les autres polices, et que les flics sont quasiment exclusivement affectés à chasser les sans-papiers. De telles déclarations dans un contexte où, au début de l'été, on en avait parlé avant de se quitter pour la pause estivale, des collectifs de citoyens. Alors, ils se prénomment collectifs de citoyens, on va plutôt dire qu'ils ont des sacrées tendances à s'appeler, à ressembler à des milices. Par exemple, ils ont leur but, c'était d'entraver le travail, de ralentir sur les routes le travail des secouristes quand ils allaient porter secours à des personnes migrantes ou en tout cas perçues comme telles. Et du coup il y a eu aussi des lynchages de la part de certaines personnes, un énorme soutien de la population sur des personnes qui étaient passées en procès suite à la mort d'une personne sans papier qui avait été tabassée et sa maison avait été incendiée. Il y a eu des manifs de soutien des accusés devant le tribunal. Enfin voilà, l'ambiance c'est un peu ça. Quand un préfet déclare ce genre de truc, on sait peu dire qu'il joue avec le feu. Bien évidemment, il a le soutien de Paris qui indique que 3 intercepteurs, alors les intercepteurs c'est un peu un nom pour dire qu'il y a des bateaux très rapides qui vont arriver et qui seront affrétés à Mayotte pour pour chasser les sans-papiers, hein, comme d'hab, pour éclairer un tout petit peu plus sur le contexte de vie des Mahorais. C'est-à-dire que, qu'en préparant ça, j'ai tapé Mayotte dans Google pour voir un peu ce qui se passait. Et ben, par exemple, mardi, c'est-à-dire le lendemain des déclarations, alors même si ça n'a pas de lien direct, des lycéens et collégiens ont lancé un mouvement pour réclamer plus de bus pour se rendre dans leur collège et leur lycée. Et alors, si mardi c'était un peu tranquillou et c'était des simples barrages filtrants ou des blocages suivant les personnes, aujourd'hui l'ambiance était un peu plus tendue et c'était plutôt barricades enflammées et affrontements avec la police, avec jets de cailloux, etc. etc. Clairement, les manifestants ne demandaient pas la reprise des expulsions des sans-papiers, mais plus de moyens pour suivre leur scolarité. Alors, bon, ça fait un peu... ça éclaire un peu sur la situation qu'il y a là-bas, où effectivement il y a une grosse pauvreté, mais la situation n'est pas seulement due aux sans-papes.
Il faut que ça se sache.
Il y a une dizaine de jours, le camp de réfugiés dit BMX à Calais se faisait démanteler et détruisait l'organisation précaire d'une centaine de personnes. Deux jours avant, un jeune Soudanais avait été retrouvé mort noyé et il avait essayé de traverser la Manche à la nage. Aujourd'hui, l'Auberge des Migrants, l'une des associations de soutien aux réfugiés, alerte sur le refoulement de plus en plus abrupt de leur distribution alimentaire, une distribution qu'ils font quotidiennement dans Calais. Et donc, un refoulement qui se fait au prétexte de risques de troubles à l'ordre public ou abandon de déchets sur la voie publique, alors qu'ils assurent essayer de rendre la place propre après être passés. La sous-préfecture menace donc d'interdire les distributions. Ils ont déjà été rejetés du centre-ville vers un quai. La distribution alimentaire est maintenant critiquée par les autorités portuaires qui sont propriétaires du quai en question. Les migrants déjà régulièrement privés par la police de leurs tentes et couvertures sont maintenant privés du moindre soutien, un pas de plus qui est franchi pour leur non-aide.
Il faut que ça se sache.
Et on va faire un tour du côté de Malte, où depuis le 4 août, 27 personnes sont coincées sur un pétrolier au large de l'île maltaise. Pétrolier qui les a secourus alors qu'ils étaient bien en perdition en Méditerranée et qui depuis se voit refuser le débarquement par les autorités maltaises. L'équipage et les migrants à bord sont sur les rotules. Ça fait plus d'un mois qu'ils gèrent la situation tant bien que mal. D'un côté, l'équipage composé de 21 personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour assurer le confort à minima de leurs hôtes de fortune, et de l'autre côté, les 27 personnes secourues qui, après avoir déjà parcouru et traversé plusieurs pays pour tenter la traversée de la Méditerranée, se retrouvent bloquées sur ce bateau qui n'est pas prévu pour accueillir plus de personnes et se retrouvent aussi sans perspective. Maria Skipper Schwen, directrice de Danish Shipping, qui est l'entreprise qui chapeaute le pétrolier. Autant dire, à la base, normalement, ce serait pas une pote, par exemple. C'est pas la personne où on se dirait, ah, on va être d'accord avec elle. Et ben, elle a quand même déclaré, l'équipage constitué de 21 personnes fait de son mieux pour répondre aux besoins des migrants, mais un pétrolier n'est pas un endroit adéquat pour des personnes en détresse. Les migrants sont de plus en plus inquiets. Ils viennent pour la plupart d'Afrique où ils ont fait un long voyage éprouvant pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est passer à l'étape d'après. Donc ouais, c'est quand même un truc où on se retrouve face à une personne où son boulot c'est de gérer des gros tankers pétroliers dans la Méditerranée, et où en fait même elle fait quand même preuve de plus d'humanité que l'Europe et Malte. Alors bon, comme ça fait un peu plus d'un mois que tout ça dure, l'Europe est arrivée et a dit, ah là quand même ça suffit, Malte faudrait quand même que vous les autorisiez. Bon, Malte de son côté joue la montre et fait silence radio. Malte n'en est pas à son coup d'essai. En juillet, le navire Thalia avait connu exactement le même sort, mais ça avait duré un peu moins longtemps quand même. Bon, alors c'est vrai, ce qu'il faut reconnaître à Malte, c'est qu'ils ne font pas semblant, hein, quand il s'agit de gérer ce genre de situation. On a d'un côté les pays comme la France et plus largement, hein, les pays de l'Union Européenne qui se cachent derrière leurs petits doigts, qui se nomment garde-côtes libyens et gouvernement turc pour gérer les personnes qui veulent immigrer en Europe. Et de l'autre côté, bon, on a Malte qui affrète elle-même des bateaux, on en avait parlé au début de l'été, des bateaux commerciaux avec à son bord des migrants afin de les ramener direct en Libye, avec également à son bord au bord de ces bateaux, un représentant du gouvernement maltais venu avec des cadeaux pour les Libyens qui, eux, avaient accepté de laisser passer ces deux navettes express. Donc voilà, un peu le contexte en Méditerranée, ce qui fait plaisir. Et ben c'est 19h48.
Oh ouais, donc il est temps qu'on se barre. Hein.
On a fini ce Canu Info. Un petit point agenda. Alors bien sûr, il y a une manif, on le sait, le 17 mai. Ah. Non, le 17 mai, non,
pardon. On peut l'annoncer dès à présent. Préparez vos 17 mai.
Non, le 17 septembre, la grosse manif interpro du 17 septembre. Et samedi 5, donc ce samedi, il y a une marche contre la haine et l'islamophobie. Et c'est à 15h devant la mairie de Lyon, place de la Comédie, dans le centre-ville. Voilà. Si vous voulez un autre agenda un peu plus complet, vous attendez 10 minutes. Et il y a Idée Noire qui a la tradition de commencer son émission par l'agenda. Donc voilà. En attendant, merci de nous avoir écoutés.
Et à la semaine prochaine.
Ah, et comme ça, je mets le bon générique de fin. Au revoir.
Ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.